Bonjour mesdames et messieurs auditeurs, auditrices, nous vous présentons Époque Choc sur 106.3 fréquence Paris Pluriel.
Salut chers auditeurs, pour cette émission à nos côtés, Nisrine,
Babou, Nawel, Zoumana, Lydia, Daryl et moi Nicolas.
Pour faire cette émission, nous avons souhaité réfléchir aux liens qu'il pourrait y avoir entre musique et politique, entre militants et musiciens à travers l'exemple du free jazz aux États-Unis qui dans les années 70 était un moyen d'expression de la colère et de la révolte des victimes des discriminations.
Mais nous avons reçu exactement des États-Unis Julia White, ancienne militante des States, qui nous fait part de son vécu et de son combat militant quand même.
Et nous avons rencontré Sylvain Cassap qui va nous parler des rapports entre free jazz et les révoltes des Noirs américains aux États-Unis.
Tout de suite, nous avons le plaisir de vous proposer une interview que nous avons réalisée. Avec Lydia, Nicolas, Daryl et moi-même, Nawel, nous avons eu la chance de rencontrer Julia White. Julia White est la fille de Richard White, grand écrivain noir américain et ami de Martin Luther King. Julia White nous a fait part de son expérience. Elle nous a raconté sa vie en Amérique dans les années 60-70, à l'époque où la discrimination raciale était récurrente. Nous vous proposons d'écouter l'interview de Julia White.
Nous sommes en direct de Fréquence Paris Pluriel. Et aujourd'hui, nous avons le très grand honneur de recevoir Madame Julia White.
Moi, j'ai le grand honneur d'être en votre présence parce que vous allez m'apprendre beaucoup de choses, je suis sûre.
Bonjour Julia, ça va ?
Bonjour Marly.
Pourquoi vous êtes venue en France ?
Alors, c'est un cadeau que m'a fait mon père, Richard Wright, qui, quand j'étais une toute petite gosse, m'avait confié aux mains d'une amie blanche pour me faire des promenades. Et on est allé dans l'équivalent des galeries Lafayette, c'était dans les années début des années 40, et j'ai demandé à faire pipi. On m'emmène au comptoir par la main pour demander à la vendeuse où sont les toilettes, et la vendeuse répond à la dame blanche: les toilettes sont là-bas. Et elle s'éloigne et la vendeuse voit qu'elle tient par la main une petite fille métissée. Et la vendeuse rappelle la dame blanche en lui disant: non, vous ne pouvez pas introduire cette petite fille dans les toilettes. Et j'ai fait pipi sur le trottoir. Et mon père a été... Alors mon père, ses colères volcaniques.
Et c'était votre père qui était blanc et votre mère noire, ou l'inverse ?
Non, mon père était noir. C'est lui qui était l'écrivain. C'est lui qui m'a fait ce cadeau. Il m'a emmené en France.
Et ma mère était blanche. Ouais. Est-ce que vous trouvez que la situation a changé aux États-Unis depuis l'ancien temps, enfin, depuis les années 70 ?
Alors, je trouve que technologiquement parlant, elle a changé. Mais je trouve que du point de vue de la discrimination contre nous, noirs, minorités, pauvres, immigrés, dissidents, je trouve qu'elle a empiré. Parce que la technologie est venue aider le harcèlement qui était déjà ancien.
Et vous pensez que c'est qu'aux États-Unis ou aussi en France ? Parce que vous avez vécu dans les deux...
Je pense que cela existe en France et que cela existera d'autant plus en France et de plus en plus en France si les dirigeants, et là je leur chuchote, que s'ils ouvrent les vannes comme ça et les portes à l'influence américaine comme ils le font à tous les niveaux, eh ben oui, ça va devenir une petite Amérique ici. Nicolas, tu as l'air inspiré.
Pensez-vous qu'en 2006, la discrimination est encore présente aux États-Unis ?
Oui, 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 je crois que vous êtes tous d'accord que oui, qu'on a besoin de boucs émissaires, que pendant la guerre froide, c'était les communistes, Manque de peau, il n'y a plus de guerre froide. Il faut se réinventer un ennemi. Alors, l'homme noir continue à être un ennemi. On peut dire, hein, Daryl, que nos ancêtres, certains de nos ancêtres, étaient déjà prisonniers. C'est dire qu'en nous, la révolte, hein, on a dû la cultiver. Voilà. Alors, ce que je voulais dire, par contre, c'est que il y a une chose que je refuse et que je récuse et dont j'accuse mon pays. On n'a pas le droit de faire l'amalgame, tu sais ce que ça veut dire, amalgame, entre les terroristes et nous. Nous, nous sommes des combattants de la liberté.
Franchement, moi, si j'ai un message à faire passer aux auditeurs, c'est tous les Noirs, levez-vous, on va leur faire un attentat intellectuel.
Ah bah oui, tu peux, si tu veux, sublimer tout ce que tu veux. Simplement, le combat, il est long, il est dur, il exige des compétences. Et je vais te donner l'exemple de Malcolm X que j'ai rencontré en Afrique. Malcolm X, il a été condamné comme un petit malfrat. En fait, il était gigolo. Il était, comment ça s'appelait, Mac. Et en prison, il s'est transformé. Donc, il est entré petit délinquant, voire criminel, et il est sorti de la prison complètement transformé intellectuellement, avec des compétences. Et il est devenu le Malcolm X qu'on connaît.
Julia, vous pouvez nous parler des Black Panthers?
Oui, volontiers. Alors là, vous serez obligé de m'arrêter parce que je suis très prolixe sur ce sujet-là, étant donné que je les ai beaucoup aidés, que je les connais très bien, que j'ai été très proche de leur mouvement, sinon Black Panther moi-même, que je les ai aidés à fonder le bureau d'Alger, que c'est la raison pour laquelle je vais aller dans le couloir de la mort dans quelques semaines, Mumia Abu-Jamal, noir américain, qui est devenu membre des Panthères noirs. Des années plus tard, alors qu'il est devenu un de nos meilleurs journalistes d'investigation, on l'a accusé d'avoir tué un flic blanc, ce qui est la pire des accusations qu'on puisse se prendre aux États-Unis, dans l'Amérique que nous connaissons. Et il est en prison pour un crime dont il clame l'innocence depuis une génération, c'est-à-dire presque 25 ans. Et c'est un de nos plus grands écrivains.
Vous pensez qu'aujourd'hui, en 2006, les Noirs sont des individus à part entière ou entièrement à part?
C'est bien dit. C'est très bien dit. Alors, répète ta question. Sont des individus à part entière? Non. Non, pas à part entière. Depuis l'esclavage, ce sont des demi ou des quarts d'individus, si tu veux les trancher en petits morceaux, pas à part entière. Entièrement à part, alors là c'est une question piège, parce qu'il y a des Noirs qui sont tellement fatigués, lassés, écœurés, de cette société blanche et riche, parce qu'il y a des blancs pauvres, hein, la blanche et riche, l'élite, tellement écrasée par eux, qui préfèrent être à part, qu'ils revendiquent la ségrégation noire.
Franchement, là, en même pas 5 minutes, vous avez appris, je sais pas, un an d'histoire, on va dire.
Même plusieurs.
Ah, alors, je vous...
Je vais écrire une chanson, je vous la dédicace.
Ah, écoutez, et à Mumia, surtout Mumia, il en a besoin de chansons. Et puis, vous me laissez vos coordonnées, Parce que quand il y aura des trucs à la rue Moumia Abou Djamal, genre festivité, genre soirée musicale, genre tout ce que vous voudrez, on vous invite.
C'était Julien Watt qui répondait aux questions de Daryl, Nicolas, Nawel et Lydia. Tout de suite, je vous propose d'écouter Charles Mingus et son morceau Crème Blues.
Thank you. Vous êtes toujours sur Fréquence Paris Pluriel. Si vous êtes dans les bouchons, au travail ou chez vous, si vous avez une radio, écoutez 106.3 FM. On va écouter une interview de Sylvain Cassap. Sylvain Cassap, très grand joueur de jazz français, qui au cours de sa carrière a joué avec beaucoup de jazzmen américains noirs. Ces rencontres lui ont permis de mieux comprendre la situation aux États-Unis. Lors de notre rencontre, nous lui avons posé des questions auxquelles il a répondu très sympathiquement. Ses réponses nous ont appris beaucoup de choses. Tout de suite, nous vous laissons avec son interview.
On est parti. Premièrement, nous allons rappeler, parce que hier, en fait, on a eu un entretien avec Julia White. Je sais pas si vous connaissez.
Non.
Vous connaissez pas?
Non.
Et ben, genre, on a eu un entretien avec elle. C'est, on va dire, en quelque sorte, une militante.
Ouais.
Qui combat contre les injustices, comment dire, les différences d'égalité, tout ça. On a parlé de la révolte des hommes de couleur des années 60, 70.
Aux États-Unis.
Aux États-Unis. Ouais. C'est toujours un combat qu'elle mène. On a parlé de ça. Et je voudrais savoir, est-ce qu'il y a un lien entre ces révoltes des années 60, 70 aux États-Unis avec le jazz?
Ah bah avec le jazz aux États-Unis, ouais, directement, de toute façon, parce que politiquement, il y avait une situation globale, quoi. De toute façon, les États-Unis, à ce moment-là, il y a eu tous les événements de Little Rock et tout ça, et bon, Rosa Parks, là, dont on a parlé, parce qu'elle vient de mourir, là, celle qui s'est pas levée dans un bus et qui a commencé à faire toutes les... Enfin, qui a été le déclencheur des émeutes. Et le jazz, en tout cas aux États-Unis, c'était une musique noire, quoi, vraiment, qui, on va dire... Ça a toujours été un fondement d'une musique noire, mais très vite récupéré par le monde blanc. Et à chaque fois, il y a eu des espèces de bifurcations. C'est-à-dire qu'on peut dire que même avant, dans les années 40, quoi, les mecs qui ont fait le bebop, comme Charlie Parker ou Monk ou tout ça, ou Dizzy Gillespie, c'était pour jouer des trucs que les blancs pourraient pas jouer. Quoi. Au bout d'un moment, ils sont mis à bosser, à phagocyter ce truc-là. Et donc, la situation tant politique que musicale, quand à un moment, ça, au milieu des années 60, quand ça a explosé, il y a le free jazz qui est né. Et au départ, c'est vraiment une musique qui est liée, je pense, au mouvement de contestation, liée au Black Panther, liée à tout ça. Quoi. Je crois qu'il y a l'époque, globalement, qui fait que ouais, c'est complètement lié. Ça, c'est cool. Le free jazz, en tout cas, ce qu'on a appelé après le free jazz, c'est complètement lié au mouvement noir américain de la même époque.
Avez-vous rencontré des jazzmen de cette époque?
Alors ouais, j'en ai rencontré certains plus tard, parce que là, dans ces années-là, j'étais môme, et puis j'étais en France. Mais il y en a pas mal qui sont venus à Paris, notamment parce qu'ils pouvaient pas bosser aux États-Unis, parce que il y avait pas de boulot pour cette musique. Enfin, il y a eu un mouvement qui a apprécié ça, mais ça a été vachement rejeté, quoi. Ils avaient pas de taf du tout. Donc en fait, il y en a plein qui sont venus en France, comme il y a eu Mohamed Ali, Frank Wright, enfin tout ça. Ces gens-là étaient ils sont arrivés, je sais pas quoi, à la fin des années 60, je dirais. Et on les a rencontrés, on a joué avec eux. Ouais. Ouais, ouais.
Aurez-vous joué cette musique sans avoir entendu les jazzmen américains?
Non, ça c'est sûr. Il y a une partie de l'histoire du jazz qui a complètement je pense qu'on l'a reçu, on joue pas ça comme eux, parce qu'on n'a pas la même histoire, mais ça a marqué, évidemment, ouais, évidemment.
Tu peux en conclure donc que ça vous a inspiré?
Ah ouais, ouais, complètement. Moi, quand j'étais môme, j'écoutais plus, on va dire, de la pop musique et du rock, quoi. Et puis, au bout d'un moment, adolescent, j'ai découvert ça, et ça a vraiment changé ma façon de voir la musique, ouais.
Que pensez-vous du free jazz?
Historiquement, c'est un mouvement vraiment très très important. C'est quelque chose dans ces années-là qui véhiculait vraiment autre chose qu'un discours musical, qui véhiculait vraiment aussi un discours politique et un discours on va dire même de prise de position par rapport à la société, quoi. Donc maintenant, l'entendre maintenant, il y a des trucs qui paraissent, moi, qui me font plus le même effet maintenant, parce que c'est daté, quoi. Il y a des gens qui jouent encore ça, et ça fait bizarre de l'entendre jouer comme dans ces années-là, quoi. Pour moi, c'est un côté un peu revival qui me fait bizarre. Pour moi, c'était vraiment lié justement à une situation aussi bien politique que sociale, et que ça me fait toujours bizarre d'entendre des gens jouer comme ça maintenant. Cela dit, ça a laissé des traces. Et nous, justement, en France, il y a un moment, on voulait plus employer ce mot de free jazz par rapport à la musique qu'on faisait, parce que justement, on pensait que c'était extrêmement noir américain, et on a commencé ici à employer le terme de musique improvisée. tu vois, pour vraiment distancier. C'est pas que c'est parce qu'on pouvait pas endosser cette musique là parce que elle était
à la base c'était voilà quoi.
Ouais, et puis elle était aussi portée par une histoire qu'on a pas vécue de la même façon. Les luttes c'est pas les mêmes de toute façon, même s'il y a des luttes, c'est pas les aux mêmes endroits qu'elles se passent, parce que même le rapport au racisme ici, il est très différent de celui des États-Unis quoi.
Ça veut dire que les jazzmen américains de l'époque, ils retransmettaient un message à travers leur musique.
Ah ouais, complètement.
Et est-ce que vous pensez que c'est la musique seule peut faire passer un message ?
Ah, c'est compliqué comme question. Je pense que c'est pas seulement la musique, c'est une attitude. C'est une attitude vis-à-vis de la société qui nous entoure. C'est-à-dire que, je sais pas quoi, je pense que si on est d'accord avec la société qui nous entoure, on fait une certaine musique, et si on n'est pas d'accord, on en fait une autre. Mais c'est pas forcément la musique qui va véhiculer le message, c'est sa limite, on va choisir son camp, quoi.
Ça veut dire qu'on peut mélanger musique et parole.
Ah ouais, de toute façon. Je veux dire, ouais, je pense que c'est le principe de la musique, c'est qu'on peut mettre des textes dessus, de toute façon.
Mais pensez-vous que si, par exemple, dans une musique de l'époque des jazzmen américains, à travers leur musique, pensez-vous qu'il y avait besoin de rajouter des paroles pour être compris ?
Non, mais je pense qu'il y avait des vocalistes qui avaient envie de les mettre. C'est-à-dire que... Bon, moi, je joue du sax et les clarinettes. Je m'exprime avec le sax et les clarinettes. Donc, moi, je ne vais pas jouer avec des paroles. Par contre, des chanteurs ou des poètes ou des gens comme ça, leur moyen d'expression, c'est la parole. Donc, s'ils ont envie de venir jouer avec nous, ils vont le faire avec leur instrument, qui est la parole. Et ils vont utiliser le texte. C'est un truc... je ne sais pas, si on est tromboniste, on joue du trombone. Si on est poète, on joue du texte.
Et vous, à travers votre musique, vous avez essayé de faire passer quel genre de message à travers vos musiques que vous jouez ? Si c'est pas de la révolte, comme à l'époque vous
avez... Si, ouais, enfin, la révolte c'est compliqué à dire, mais c'est en tout cas, je pense qu'une grosse partie de la musique que je produis, de toute façon, elle dit que je suis pas d'accord avec les trois quarts du fonctionnement de la société. Parce que sinon je ferais des musiques plus consensuelles. Je pourrais avec Maria Carré.
Et vous pensez quoi de Maria Carré ? C'est une question à part. À part qu'elle a une magnifique voix.
Ouais, je sais pas. Ça me plaît pas en général. Ça me plaît pas ce qu'elle représente. Je sais même pas
ce qu'elle représente, pas ce qu'elle chante.
Je sais rien. J'écoute pas ce qu'elle chante parce que j'aime pas ce qu'elle représente. Voilà.
Est-ce que vous pensez que vos messages que vous avez fait passer dans votre musique, ils ont toujours été compris du public ?
Non, je suis pas sûr. Non, je suis pas sûr. Et puis surtout, je pense qu'il y a un certain public qui n'a pas envie d'entendre ces messages, quoi. Il y a un moment...
Vous sentez un ras-le-bol ?
Non, c'est-à-dire qu'il y a quand même... Enfin, il y a des gens qui ont un ras-le-bol, ouais, ça c'est possible. Mais il y a surtout, je dirais, les gens qui n'ont pas envie de voir... Tu vois,
faire fermer les yeux.
Voilà. Et donc, c'est plus simple, je sais pas quoi, de regarder la Star Academy ou d'acheter des trucs comme ça.
C'est moins compliqué. C'est,
ouais, je sais pas. C'est un côté comme ça.
C'est la solution
quoi.
La plus facile, genre, pas écouter.
Peut-être, mais en même temps, je pense qu'à moyen terme, on en prend encore plus sur la gueule, quoi. De toute façon.
D'accord. Vous pensez qu'il y a un public spécifique qui écoute du free jazz aux États-Unis ?
À l'heure actuelle, je sais pas. Je pense que ça a beaucoup bougé. Je sais pas s'il y a encore beaucoup de public. Il y a un public spécifique qui écoute du jazz, ouais, sous toutes ses formes. Il y a le fait aussi que je pense qu'il y a un moment, justement, le côté de la révolte, le côté de ce qu'on a, comment dire, la great black music, justement, comme on mettait cette étiquette à un moment, ça s'est déplacé. C'est plus forcément le jazz qui l'apporte.
Okay.
C'est peut-être plus une partie du funk, une partie du rap, une partie de... Je sais pas. Ça a glissé. Ici, par exemple, la majorité du public de jazz, on va dire créatif, il a vieilli. Et ce qu'on met souvent sous l'étiquette de jazz maintenant, c'est, pour moi, c'est de la variété. Donc, et ça, c'est écouter, ça passe à flip et tout ça, mais c'est plus porteur d'un message, justement. C'est la musique cool à écouter en bagnole, ou je sais pas quoi.
Et d'après toi, tes idées peuvent-ils passer autrement que par le jazz ?
Oui, sûrement.
De quelle manière, par exemple ?
Je sais pas. Artistiquement, ou globalement, ou dans la vie, dans la position ?
Je sais pas, autrement que par le jazz, ça peut être par une autre musique, par exemple le rap. Est-ce que vous... Peut-être pas par le rap, je vous dis le rap parce que moi personnellement je fais du rap, mais d'après vous, si par exemple le jazz ça n'aurait pas existé et vous auriez voulu faire passer un message, vous y serez pris comment?
Ça c'est une bonne question à laquelle j'ai pas de réponse immédiate en fait, vu que j'avais ça, j'en sais rien. Mais par exemple, les premières fois qu'on peut dire, enfin moi les premières traces, qui connaissent sûrement mieux que moi, mais les premières traces que j'ai eues de trucs de rap, pour moi, c'est les Last Poets, et c'est dans les années 60, justement, les mecs, bon, il n'y avait pas de boîte, c'était des congas, mais les textes qui étaient, le flow qui était dessus, c'était quand même de l'ordre de ce qu'on a entendu après, quoi. Et le rap, le problème du rap, je trouve que c'est qu'il y en a une partie qui est sur une position de révolte, et il n'y en a qu'une partie qui est sur une position de business, et que c'est quand même compliqué de faire la part des choses, c'est-à-dire que, tu vois, il y a
une différence entre le jazz et le rap, quoi, en fait.
Ouais, sûrement. Ouais, déjà, il y a le beat, qui est quand même, quand même pas les mêmes.
Mais genre, dans le, par exemple, si par exemple, parce qu'il y a différents types de rap. Il y a du rap aussi qui fait passer un message de révolte, etc., sous forme de musique et de paroles mélangées.
Ouais.
Et le jazz, c'est juste de la musique qui fait passer un message. Ça veut dire, il y a une différence, mais peut-être il y a un rapprochement aussi.
Oui, moi je pense. De toute façon, moi par exemple, bon, il m'est arrivé de jouer avec un certain nombre de rappeurs, et on n'a pas de problème à être ensemble, quoi, à se retrouver avec les instruments et le flow, et ça joue, quoi. Il n'y a pas de lézard, quoi. Donc, c'est ce qui est sûr, c'est que ça peut marcher. Ça, qu'il y a pas de, en tout cas, il y a peut-être des différences, mais il n'y a pas, on va dire, d'antinomie, quoi.
Antinomie.
Ouais, de trucs impossibles à mélanger, quoi. Je sais pas quoi. Je pense qu'il y a des musiques qui sont pas vraiment mixables, et puis il y a des musiques qui le sont, quoi.
Ça veut dire que, genre, si par exemple je peux autant écouter mélanger le jazz et le rap que mes paroles de rap avec les musiques de jazz.
Ouais, je pense. Je pense que ça va le faire. Okay, pas de raison.
Ok, d'accord. Merci. C'était Daryl et
Sylvain Cassap.
En direct de Fréquence Pareil Pluriel.
C'était Sylvain Cassap qui répondait aux questions de Lydia, Nawel, Nicolas, Daryl. Je vous propose tout de suite d'écouter un morceau de Sylvain Cassap, Bavardage. Thank you. Et vous venez d'écouter Sylvain Cassap. C'était Époque Choc sur Fréquence Paris Pluriel avec la participation de Julia White, qui, je le rappelle, est la fille de l'écrivain Richard White, Sylvain Cassap, jazzman, et encore toutes nos excuses auprès d'Alexandre Pierrepont que nous n'avons pas pu rencontrer.
Un grand merci à Daryl, Boula, Inès, Rin, Nawel, Nicolas et moi-même Lydia qui ont participé avec nous pour cette émission, ainsi qu'à Fréquence Paris Pluriel de nous avoir permis de réaliser cette émission.
Merci à tous d'avoir suivi cette émission. Au revoir et à très bientôt sur Fréquence Paris Pluriel. Salut.
Au revoir. Dédicace pour tout le 9-3. Maman, ouais, je 9, 3, t'aime. Dédicace pour Daryl.
Ma mère aussi, je t'aime.
Maman, je t'aime. Dédicace pour Daryl. 9-3, hoche. Pierre-Pute sur scène.
Dédicace à tous les jeunes. Allez à fond dans la musique.
Dédicace pour Dunia.